Chapitre 2. Le lendemain, à 8 heures, Trinette frappa à la porte de son protecteur. Elle venait pour son ablution, comme elle le dit elle-même, toute fière d'avoir retenu un de ces beaux mots dont elle admirait la sonorité. « Pour tes ablutions !» rectifia M. Bourquin. « Fort bien, entre et ne ménage ni l'eau ni le savon. » L'eau était froide, le linge rude. Aussi Trinette ressemblait-elle à une petite écrevisse lorsqu'elle eut fini sa toilette. Mais son sourire brillait comme un rayon de soleil. Après avoir, d'une main adroite, rendu différents services à M. Bourquin, elle prit ses livres et partit pour l'école d'un pied léger. « Et maintenant, se dit M. Bourquin, avec une mine résolue, commençons la journée par le devoir le plus désagréable. De ce pas, je vais me rendre chez Mme Begley. Si elle n'est pas levée, ou si son ménage est encore en désordre, je saurai qu'elle est une paresseuse, et ce sera déjà un renseignement sur son compte. » Cependant, comme il ignorait la résidence de la susdite dame, il dut, pour commencer, se mettre en quête d'un guide capable de l'escorter dans le dédale de la moutonnière. Un marmot barbouillé se trouva à point nommé dans le corridor. « Sais-tu par où l'on passe pour aller chez Mme Begley ?» lui demanda M. Bourquin. « Nourri dans le sérail, j'en connais les détours, » aurait pu répondre le gamin, mais les classiques ne lui étant pas familiers, il se contenta de secouer affirmativement la tête en prenant les devants. « Là » dit-il après d'assez longues pérégrinations, en indiquant une porte au fond d'un corridor. « Et voilà Mme Begley. » Une femme, dans un ajustement plus que négligé, se trouvait là, en effet, un balai à la main, tournant le dos aux arrivants. Au bruit de leurs pas, elle se retourna, et comme si l'honnête visage de M. Bourquin eût été la tête de Méduse, elle poussa une exclamation singulière, tourna sur ses talons, ouvrit sa porte et disparut. Son visiteur étonné s'arrêta court, indécis sur le parti à prendre. Mais son bon sens lui fit découvrir aussitôt la cause probable de cette fuite précipitée. « Madame Begley aura deviné mon intention, se dit-il, et elle veut, avant de me recevoir, faire une toilette plus convenable. Fort bien, je lui en laisserai le temps. » Il se mit donc à arpenter le corridor de long en large. Puis, quand il jugea le délai suffisant, il heurta discrètement. « Entrez » répondit-on. Les conjectures de M. Bourquin se trouvèrent confirmées par l'attitude de Mme Begley. Debout, les bras levés, elle enroulait à la hâte autour de sa tête les longues tresses d'une chevelure blonde très abondante. C'était une femme de 30 ans environ, assez fraîche encore, et dont le visage n'eût pas été désagréable sans l'expression fuyante et rusée du regard qui se glissait furtivement sous de lourdes paupières bordées de cils trop pâles. « Bonjour, madame, » dit poliment M. Bourquin. « Excusez cette visite trop matinale, j'aurais à vous parler. »« Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle brusquement en enfonçant la dernière épingle de sa coiffure et en saisissant ensuite à deux mains le dossier d'une chaise, comme si elle projetait de s'en faire une arme contre son visiteur. « Je n'ai aucune intention hostile, madame, » dit le pacifique célibataire, alarmé de ce mouvement. « C'est de vos enfants que je venais vous parler. »« Des enfants de Begley, vous voulez dire, et c'est pour cela que vous venez ?» Le regard fuyant dont nous avons parlé glissa un instant sur la figure de M. Bourquin, toute brillante de bonne foi. « Ah, voilà !» dit Mme Begley, que cette inspection parut satisfaire et dont les traits prirent immédiatement un air patelin. « Excusez, monsieur, mais quand on est pauvre, vous savez, on a des dettes un peu partout et on a toujours peur de voir arriver le sautier. »« J'espère, cependant, fit observer M. Bourquin d'un ton sévère, que vous ne recevez pas les représentants de la loi en leur jetant vos chaises à la tête. »« Bien sûr que non. Quand on n'est qu'une pauvre femme, on n'a rien à faire qu'à se soumettre. Et comme ça, vous voilà la moutonnière. Asseyez-vous, monsieur Bourquin. » « Comment savez-vous mon nom ? » demanda-t-il surpris. Elle parut interdite, et tout ça pour se donner une contenance. « Eh bien, je l'ai entendu hier pendant que vous déménagiez. Quelqu'un me l'a dit, je ne sais plus qui. Ça m'a bien étonné tout de même. continua-t-elle avec une volubilité croissante, de voir un monsieur comme vous venir se loger à la Moutonnière. Il faut que vous ayez vos raisons. En effet, j'ai mes raisons. J'entendais hier soir Grosjean, le porteur de tourbe, dire que vous étiez venu ici exprès pour lui faire perdre la tête en roulant de gros yeux et en lui répétant avec une grosse voix qu'il y a une justice sur la terre. Il a dit cela, s'écria M. Bourquin. Je n'aurais pas cru qu'il s'en fût vanté. Quelle espèce d'homme est ce Grosjean ? Oh, une toute mauvaise espèce, il a les doigts trop longs et on fait bien d'ôter les clés par où il passe. Du reste, dans sa famille, il n'y a jamais eu que des gens de petit bien. Ils ont toujours demeuré à la Moutonnière. Moi, je n'y suis que depuis 3 ans par rapport à mes malheurs. Ah, j'ai vu du pays, je vous en réponds. Sa voix prenait des inflexions larmoyantes qui commencèrent à attendrir le cœur sensible de son auditeur. Après s'être frotté les yeux avec le coin de son tablier, elle continua. « Quand j'étais jeune fille, je jurais et jureras-tu que je ne me marierai jamais. Mais je n'ai pas toujours eu de bons parents pour me conseiller. À 16 ans, j'étais orpheline pour toujours. » « Quand on l'est, c'est ordinairement pour toujours, » remarqua judicieusement M. Bourquin. « Justement, c'est ce qu'il y a de plus triste. 15 jours après mon mariage, je pleurais et pleureras-tu pendant des heures au bûcher. Et puis, mon mari est venu à mourir. Ça n'aurait encore rien été si j'avais eu un état. Mais il a fallu me mettre à aller aux lessives. Quelle misère! Et pas même assez de journées. Bien des fois, en hiver, nous n'avions pas une larme de café pour nous réchauffer le matin. Quand je pense où j'en suis venue, la commune me donne bien quelques petites choses, mais ce n'est pas de quoi tourner quand on a 2 enfants à sa charge et des mangeurs comme cela. Si vous saviez comme ils m'ont déjà tourmenté, ces coquins d'enfants à mon mari. Avec Catherine, ça aurait pu aller à la fin. Mais son vaurien de frère venait toujours se mettre entre nous deux avec sa mine arrogante et ses airs de fils de roi. Ah, celui-là ne vaut pas grand-chose, allez. S'il voulait, il pourrait me donner un bon coup de main au ménage, car il gagne 5 francs par semaine. Mais il ne pense qu'à s'amuser. Croiriez-vous qu'il a eu le cœur de dépenser tout son premier argent en cigarettes pendant que nous n'avions qu'une livre de pain à la maison ? Voilà qui est inexact. Dit tranquillement M. Bourquin, ne se sentant plus aucune velléité d'attendrissement. Jean a employé ses premiers gains à acheter des souliers pour Catherine. Paix, paix, madame, je le sais de source certaine. Mais venons-en à l'objet de ma visite. Hier au soir, ayant rencontré vos enfants, j'ai lié conversation avec eux. Ils m'ont accompagné chez moi et nous avons passé ensemble une soirée si agréable que je désire renouveler ce plaisir aussi souvent que possible. C'est pourquoi je suis venu vous prier d'accorder à Jean et à Catherine l'autorisation de passer toute leur soirée dans mon modeste appartement. » Le moment était mal choisi pour adresser à Madame Begley une pareille requête. « Rien que ça, » fit-elle avec aigreur, « pour que Jean devienne encore plus orgueilleux, n'est-ce pas ? Et pour que la petite aille vous faire ses plaintes tous les soirs ? Non, non, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, moi. Je suis encore la maîtresse ici. Et s'il s'avise de désobéir, continua la mégère, on tapera et taperas-tu jusqu'à ce qu'ils en aient perdu l'envie. » M. Bourquin resta silencieux un instant, paraissant méditer quelque argument nouveau. « Votre tablier est bien déchiré, madame, » fit-il tout à coup. « N'aimeriez-vous pas en avoir un neuf ?» Elle ouvrit de grands yeux sans répondre. « Votre buffet est vide, » continua-t-il en indiquant une armoire ouverte. « Que diriez-vous si vous y trouviez à midi un pain de sucre ?»« De 10 livres ?» fit-elle vivement. « Oui. »« Et 4 livres de café ?»« Oui. »« Et des macaronis ?»« Non, rien de plus. » Il y eut un silence. « Les enfants pourront aller, » dit-elle enfin. « Il n'y a pas grand mal après tout. » C'est la première fois, et la dernière aussi, j'espère, que je pratique ce système de corruption, pensait M. Bourquin en revenant chez lui à pas lents, le front penché. Il me semble presque que je me fais horreur à moi-même. D'où cette inspiration machiavélique a-t-elle pu me venir ? Ah, mes pauvres enfants, vous coûtez cher à ma bourse, mais plus encore à ma conscience. » Et pendant que le bon monsieur Bourquin s'étonnait et s'effrayait tour à tour d'avoir été si roué, Madame Begli se livrait à d'étonnantes démonstrations de plaisir. Après avoir exécuté une mimique très vive, entremêlée de coups de poing fictifs et de pieds de nez réels, adressée sans doute à son visiteur de tout à l'heure, elle s'était laissée tomber sur une chaise, en proie à un inextinguible fou rire. « La bonne histoire » répétait-elle à demi-pâmée. « Dire que c'est lui qui me fait des cadeaux ? J'ai eu une fameuse venette quand je l'ai vu entrer ici. Mais il aurait pu chercher partout, il n'aurait rien trouvé. C'est joliment caché » ajouta-t-elle en se prenant la tête à deux mains et en plongeant ses doigts dans les tresses épaisses de ses cheveux blonds. « Mais c'est égal, il faut que je m'en débarrasse au plus vite. »